retrouver sur le groupe à bord, descend avec les trois disciples qui ont assisté à cette transfiguration, qui l'ont vu dans sa gloire, selon ce qu'il pouvait supporter. Le Seigneur descend du mont à bord et arrivé en bas, une grande foule l'attend. Et sort de cette foule un homme qui dit, qui présente son fils possédé, lunatique, et qui demande au Seigneur de faire quelque chose, si c'est possible, parce que les disciples n'en ont pas été capables. Et le Seigneur dit quelques paroles, qui sont, comme toujours, parce qu'aucune parole du Seigneur n'est dite gratuitement, et l'enseignement est valable non seulement pour ceux qui sont autour de lui, quand il les a dites, mais pour nous tous qui écoutons l'Évangile. Le Seigneur dit d'abord une parole extrêmement dure. Au peuple incrédule et perverti, jusqu'à quand devrais-je vous supporter, jusqu'à quand serai-je au milieu de vous? Extrêmement dur. Au peuple incrédule et perverti. À qui s'adresse cette parole? Sans doute aux pharisiens et aux docteurs de la loi qui étaient là et qui critiquaient. Sans doute aussi au peuple qui attendait des miracles, comme il verrait une action extraordinaire et spectaculaire. Sans doute aussi aux disciples qui avaient fait preuve de leur manque de foi en n'étant pas capables de guérir ce jeune garçon. Mais cette parole au peuple incrédule et perverti, ça s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Et si nous sommes conscients de notre état spirituel, nous savons bien de quelle manière nous sommes pervertis et quel est notre manque de foi. Et voilà que cet homme qui est le père de cet enfant démonisé s'approche et dit, tu sais, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont rien pu faire, mais toi, si tu peux quelque chose, eh bien, aie pitié et guéris mon enfant. Regardez cette demande à la fois désabusée, nous pourrions dire insolente à l'égard de Dieu, si tu peux quelque chose. Il considère le Christ comme un rabbi comme un autre, oui, qui a fait des miracles, mais somme toute, il le demande par acquis de conscience et n'est pas absolument pas sûr du résultat. Et le Seigneur inverse la demande. Et il reprend la question, si tu peux. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que, bien entendu, le Christ peut tout faire, lui qui est le maître de la vie. Tout est possible pour lui. Mais il n'impose rien. Et pour que son action soit possible, il faut qu'il y ait en face, c'est-à-dire chez nous, la foi. Si le père de l'enfant ne croit pas, le miracle ne pourra pas avoir lieu. Parce que ce serait violer la conscience de cet homme. Or, le Seigneur n'impose rien, il n'impose jamais sa puissance, il n'impose pas son amour. Il attend que nous allions vers lui. Et il dit à cet homme, si tu peux, et si toi tu crois, tout est possible. Et le père de l'enfant, à ce moment-là, est bouleversé et dit une prière, une chose, une phrase, qui pourrait être votre prière. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ça, mes amis, nous pouvons tous le dire, parce que si nous sommes ici, c'est que nous croyons. Mais nous savons bien, en même temps, que nous sommes incrédules, c'est-à-dire non-croyants. Nous savons bien la faiblesse de notre foi. Cette prière qui demande de l'humilité, je crois, Seigneur, mais au fond, ma foi est tellement faible. Viens au secours de ce manque de foi. Ça, c'est la confession que le Seigneur peut pallier tous nos manques. C'est la véritable confession. Et cela demande de l'humilité. Pas facile de dire « Je crois, mais non, je ne crois pas vraiment. » Ça demande de la lucidité, du courage et la capacité de renoncer à l'image que nous voulons donner de nous, de bons orthodoxes, croyants et suivants tous les jours de notre vie, à chaque moment les mystères de Christ. Et le Seigneur guérit cet enfant à la grande surprise des disciples qui, lorsqu'ils s'éloignent, demandent « Mais pourquoi nous n'avons pas pu réussir cette guérison ?» Et le Christ répond « Ce démon, cette sorte de démon, ne peut s'en aller que par la prière et le jeûne. » Voilà les paroles du Seigneur que nous entendons aujourd'hui dans cette période de carême. Tout d'abord, la nécessité de la foi, qui commence par la confiance en Dieu. Non pas la confiance en notre propre force, mais la confiance en Dieu pour réaliser ce qui est humainement impossible et avant tout pour nous guérir de notre péché. C'est la chose la plus importante. Ensuite, le Seigneur nous recommande, c'est pas nous recommande, c'est nous dit que le seul moyen de nous sauver, c'est la prière et le jeûne. Pas la prière sans le jeûne ou le jeûne sans la prière. La prière et le jeûne. Et la prière, mes amis, ce n'est pas 10 minutes le matin ou le soir. Ce n'est pas une norme que l'on devrait accomplir pour être en règle avec le Seigneur. La prière, c'est un mode de vie. C'est toute notre journée, c'est toute notre nuit, c'est tout ce que nous faisons. Toutes nos pensées qui doivent être tournées vers le Seigneur. C'est ça la prière. Je reprends cette image de tout à l'heure, c'est être véritablement amoureux de Dieu. D'avoir le Seigneur tout le temps, dans notre cœur, dans notre esprit. D'avoir son nom sur nos lèvres. Vous comprenez bien que ce n'est pas en priant un petit peu le matin, un petit peu le soir, qu'on peut dire que nous prions. Ça, c'est un os que nous jetons pour être tranquille et pour avoir surtout la conscience tranquille. La prière, c'est tout à fait autre chose. Et nous le savons, si nous lâchons la prière, c'est un fil qui nous relie à Dieu. Si nous, ou la main que nous tenons, la main du Seigneur que nous tenons. Je pourrais dire aussi, la prière, c'est semblable à Pierre qui, dans la tempête, marche sur les eaux. Mais au moment où il se rend compte de ce qui se passe et où son manque de foi devient le plus fort, il coule, il s'accroche au Seigneur. Ça, c'est la prière. Ça, ça devrait être notre vie de tous les jours. Ne jamais lâcher ou le vêtement ou la main du Seigneur. Ne jamais avoir notre esprit occupé à autre chose que au nom du Seigneur, par le nom du Seigneur. Nos yeux sur son icône. Nous savons très bien que dès que nous lâchons la prière, eh bien nous tombons dans toutes sortes de péchés. C'est-à-dire que nous sommes livrés à nos propres forces et nos forces, nous en connaissons très bien, les limites. La prière doit être alliée au jeûne, tout particulièrement dans la période de carême, mais aussi dans les périodes que nous indique l'Église en courant de la semaine, le mercredi et le vendredi. Ce jeûne qui est une abstinence de certaines nourritures, non pas que les nourritures soient en elles-mêmes mauvaises, le Seigneur bénit absolument tout. Mais pendant certaines périodes, nous disons à notre estomac, tu n'es pas le maître. Ça vous paraît simple, ça nous paraît simple. Nous avons tous cette expérience au début du carême, de la difficulté de nous abstenir de manger telle ou telle chose. Évidemment, si on les mangeait, ce n'est pas un gros problème, mais nous sommes tellement habitués à compenser, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, à nous faire plaisir en mangeant, que lorsque nous réduisons la quantité ou nous supprimons certains plats ou certains mets, nous sommes tristes, nous sommes agressifs, nous sommes énervés, nous avons faim, nous ne supportons pas cet état-là. Au fond, nous nous rendons compte que tout au long de l'année, nous sommes à la remorque de notre estomac. Mais pas uniquement l'estomac. Tous les désirs déviés qui peuvent être les nôtres. Le jeûne, c'est renoncer à cela aussi. Le jeûne, ce n'est pas seulement le jeûne de l'estomac, c'est aussi le jeûne des yeux, c'est le jeûne de la bouche, de la parole. À quoi ça sert de ne pas manger telle ou telle chose si je dis du mal ou si je pense du mal de mon voisin, ou si je convoite avec les yeux tel objet ou telle personne? Le jeûne, c'est tout cela, c'est la sobriété et renoncer à des plaisirs illusoires pour nous tourner vers le seul nécessaire vers le Christ. Dans cette période de carême, et je ne vais pas parler trop longtemps, entrons en nous-mêmes et voyons quel est l'état de notre fidélité, de notre foi. Quel est l'état de notre prière? Est-ce que nous savons prier? Est-ce que nous prions encore? Et est-ce que nous sommes capables de renoncer par le jeûne à ce qui peut nous apporter un plaisir fugace et illusoire? Si nous nous rendons compte que nous sommes de peu de foi, que nous prions peu, voire presque plus, et que nous sommes soumis à toutes les tentations de la vie, eh bien, au lieu de désespérer et de dire « je suis tellement nul que je m'éloigne de l'Église, je ne viens plus communier », ce qu'il faut faire, c'est s'approcher de l'icône de notre Seigneur ici, de parler au prêtre, n'ayez pas peur de déranger, et de déposer devant le Seigneur, dans la confession, ce qui vous a éloigné de lui jusqu'à présent. Sans vous justifier, sans nous justifier, car nous sommes tous semblables, sans nous justifier, et sans non plus avoir de culpabilité. Le Seigneur n'a jamais dit « bienheureux les coupables, ceux qui se sentent coupables ». Le repentir, ce n'est pas le sentiment de la culpabilité, mais c'est de dire « voilà Seigneur, toi seul, voilà tel que je suis, j'arrive sans cacher quoi que ce soit. Seigneur, viens et guéris-moi ». Ça, c'est la confession. Ce n'est pas une fois, deux fois ou quatre fois par an. C'est le plus souvent possible, mes amis. Le plus souvent possible. N'attendez pas la dernière semaine avant Pâques pour vous confesser. Et profitez de la présence du prêtre pour régulièrement, très régulièrement, venir nettoyer votre âme. Et c'est à force de vous confesser que vous retrouverez petit à petit cette beauté première. Nous sommes tous appelés à retrouver. Notre Dieu soit l'honneur, la gloire, l'adoration dans les siècles et les siècles. Amen.